Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Donc j'ai passé les deux premiers niveaux facilement, donc j'ai récupéré mon bagage, et là c'était, je crois qu'il s'appelait Simon, l'Australien qui gère ça, il me dit, ben là tu peux y aller quoi. Et là je dis quoi, je peux y aller quoi? Non mais ils vont s'occuper de toi, t'as un truc privé. Et j'ai dit, je lui dis, ça m'intéresse pas, je voulais pas y aller, je vais rester avec vous, non, il faut que t'y ailles, quoi. Et puis là, là, il y avait deux personnes, voilà, le comité d'accueil, on aurait dit deux croque-morts, quoi, qui m'attendaient, quoi. Le pardessus noir, tout en noir, le pins de la Corée, le pins du parti, voilà, donc je suis sorti c'était un Q7 ou un Q9, je sais plus, Audi, vitre teintée. Et puis on a commencé à démarrer, donc il y avait le chauffeur. Donc je me suis dit, 3 personnes pour moi, quoi, c'est chaud, quoi. Puis en plus, à l'intérieur, interdiction de filmer, éteindre le téléphone. Et voilà, et puis, au bout de 5 minutes, je commençais à être interrogé, est-ce que vous êtes un journaliste ou un champion de marathon, quoi.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de découvrir dans notre épisode d'aujourd'hui l'envers du décor d'un marathon que j'avais envie de partager avec vous depuis très longtemps. Cet épisode plante son décor dans l'un des pays, si ce n'est le pays le plus cadenassé au monde, la Corée du Nord. Philippe Richet, qui a parcouru le globe et a déjà vécu son lot de courses plus atypiques les unes que les autres, va nous embarquer avec lui dans sa valise, direction Pyongyang, pour y vivre l'édition 2018 de son marathon. Cette course est l'un des rares moments d'ouverture de ce pays au monde occidental. À travers cet événement, le régime nord-coréen cherche évidemment à donner une image plus positive de son pays. Pour tout vous dire, j'ai eu l'impression de vivre avec Philippe non pas une simple course épique, mais bel et bien au cœur d'un film d'espionnage avec son lot de moments de tension et d'angoisse face à des situations bien souvent improbables. L'expérience de Philippe est particulièrement marquante et captivante du fait du regard très privilégié que vont lui porter les autorités nord-coréennes qui ne le lâcheront pas d'une semelle pendant toute la durée de son séjour. On a connu plus serein comme expérience de course. Vous l'entendrez dans cet épisode exceptionnel, Philippe, qui n'est a priori pas un agent infiltré, mais bel et bien un simple coureur passionné, fait preuve de beaucoup de recul, d'humour et d'aplomb face aux nombreuses situations déstabilisantes qu'il a été amené à vivre à l'occasion de ce marathon. Mais je ne vous en dis pas plus, Philippe va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Kim Jong-run.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Philippe, je suis ravi de te recevoir dans ce 55e épisode de Course Épique que nous enregistrons entre l'armistice et l'arrivée du Beaujolais nouveau. C'est une bien belle période. Comment est-ce que tu vas, Philippe ?
Bonjour Guillaume. Moi, ça va toujours bien. Hein. Je suis toujours de bonne humeur. Après, c'est dans mon état d'esprit. Donc on va passer du bon temps. Donc voilà, il n'y a pas de raison de faire la tête. Hein.
J'adore entendre ça. Philippe, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots ?
Ben, avec plaisir. Donc, je m'appelle Philippe Richer, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai une fille de 20 ans, je travaille comme cadre manager dans un intersport à Mont-de-Marsan, et voilà, j'ai d'autres activités aussi comme conférencier. J'écris, voilà, je suis sur une BD, voilà, je suis quelqu'un qui est multifonction.
Multicasquette, multifonction. Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant, puis ado? Quelle place tenait le sport dans tes plus jeunes années? Est-ce que tu étais déjà sportif?
Alors oui, j'ai toujours adoré le sport. J'ai commencé à 5 ans le foot. Donc voilà, j'étais fan de Saint-Étienne. Et surtout de Jean-Michel Larquet. Bon, en plus, il était de Pau, donc c'est à 60 ou 80 kilomètres de chez moi. Et voilà, j'étais fan de foot. J'étais fan aussi de l'équipe des Pays-Bas. J'adorais Johan Cruyff et toute cette belle équipe. Et puis bon, après, j'étais fan des Jeux Olympiques. Hein. Moi, j'aime tous les sports. Et puis bon, voilà, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fini par jouer au basket. Voilà, finalement, j'ai plus joué au basket qu'au foot. Et puis voilà, je travaille dans un intersport, donc du coup, voilà, je suis resté quand même dans mon domaine de prédilection qui était le sport.
Donc tu as testé une large gamme de sports, peut-être même depuis ton arrivée chez Intersport. Est-ce que tu as balayé des disciplines que tu n'avais peut-être pas explorées plus tôt?
J'ai testé, en fait moi j'étais beaucoup branché sport collectif, donc le foot, le basket, mais aussi le rugby, le handball, donc j'étais fasciné par, voilà, par j'aime bien partager les choses, et c'est vrai que voilà, j'étais plus sport co. Bon, après évidemment j'ai joué au tennis, j'ai fait du vélo, enfin voilà, ben, j'aime ouais, toutes les activités un peu... Enfin, toutes les activités sportives en général, j'ai testé l'escalade, j'ai testé l'escrime. Franchement, c'est à faire. Ouais, voilà, voilà, j'aime bien tous les sports. Ça fait partie de mon cadre de vie et de mon équilibre aussi.
Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu es tombé plus particulièrement dans la marmite de la course à pied?
La marmite. En fait, la course à pied.
Comme Obélix.
Ouais, c'est à peu près ça. C'était quelque chose, en fait, j'aimais pas du tout, quoi. Là, c'est quelque chose. Alors, j'aime tout le sport. Mais ça, je trouvais ça complètement stupide. Et déjà, dans les préparations physiques de basket et tout ça, en fait, je zappais. Et c'était pas mon style de me défiler, mais là, je trouvais ça complètement ridicule. Par contre, voilà, courir sur un terrain avec un ballon, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'étais très compète. Mais voilà, courir, mais alors là, même courir à plusieurs ou un truc comme ça, c'était pas mon truc.
Il te manquait la dimension ludique, c'est ça?
Ouais, sûrement. Et puis après, bon, mais je faisais beaucoup la fête, enfin, surtout la troisième mi-temps. Voilà, parce que bon, dans les Landes, on sait faire la fête. Et du coup, bon, je fumais beaucoup, quoi. Et donc, à un moment, quand t'arrives à 36 ans, tu joues avec des gamins de 20 ans. Bon, alors j'assurais au niveau physique, il n'y a pas de problème, je courais même plus qu'eux. Mais après, voilà, il y a eu un décalage avec ces gamins. Et je crois que la dernière fois que j'ai été malade, voilà, j'ai une grosse angine, je fais 40 de fièvre. Et bon, alors c'est rare quand je vais voir un médecin. Et là, il m'a foutu un peu la trouille, il m'a demandé si je fumais. Je lui ai dit, ouais, beaucoup. Il me dit, si j'étais vous, j'arrêterais, quoi. Et j'ai arrêté du jour au lendemain de fumer. Et puis, voilà, j'ai arrêté aussi le basket. Et là, ben, j'ai pris 10 kilos, quoi. Donc voilà, donc ça a été
un accélérateur pour te mettre à la course à pied.
Ouais, ça a été une petite problématique. Donc voilà, je m'étais réfugié dans le saucisson et le chocolat. Et donc voilà, donc je me suis parti pour me mettre à courir. Et puis voilà, donc bon, ça a été compliqué au début, mais c'est vrai que bon, j'ai commencé à perdre des kilos. Et puis bon, à l'époque, j'étais responsable de Sport Leclerc. On était partenaire d'un 10 km, et quand, voilà, ça faisait quoi, un mois que je courais, quoi. Et puis bon, les organisateurs, ils m'ont inscrit à la course. Donc ça a été un premier challenge pour moi de faire 10 km. Et puis bon, voilà, ça a été très compliqué, mais bon, j'avais mis 45 minutes, donc tout le monde me dit, ouais, c'est pas mal. Et donc, du coup.
Exactement ce que j'allais te dire.
Ouais, mais voilà, c'était. Ouais, c'était. Mais c'était sympa, j'étais content de moi. Ouais, j'avais pas fini dernier, donc j'avais même fini dans le premier tiers. Donc voilà. Et ma deuxième course, ouais, 6 mois après. Je suis passé sur un semi-marathon à la frontière espagnole, ça s'appelle Biobí San Sebastián. Et à l'époque, il y avait 12 000 personnes. Et bon, déjà, c'est compliqué d'avoir un dossard. Et donc, bon, c'est en 20 km avec beaucoup de dénivelé. Et là, je me suis retrouvé avec un dossard élite. Donc voilà, les premières aventures ont commencé comme ça. Je me suis retrouvé, ouais, j'étais avec des Kenyans et compagnie, quoi, avec mon collègue de boulot. Et bon, ben voilà, on est parti 3 minutes avant 12 000 personnes. Donc c'était assez folklorique. J'étais dans le rouge déjà au bout de 2 km. Mais bon, voilà, enfin, j'ai mis 1h30. Donc en fait, de 10 à 20, je suis passé. Voilà, j'étais quand même relativement stable. Donc j'avais mis 1h30 sur 20 km. Donc voilà, après, j'ai refait un semi où ben, j'ai pas progressé. Et ma quatrième course, je suis passé directement sur un marathon et là, j'ai mis 3h21. Donc voilà, et puis voilà, j'ai commencé à choper vraiment le virus parce que j'ai eu des copains qui me disaient ouais, c'est super de faire moins de 3h. Donc l'objectif après, ça a été de faire moins de 3h, quoi. Donc j'ai testé tout. Alors déjà à l'époque, je testais mes propres entraînements. Et puis voilà, je suis passé, ouais, j'ai fait 7 ou 8 marathons entre 3,01 et 3,02. Il y avait tout le temps quelque chose qui me bloquait.
Tu es ensuite progressivement monté en puissance et t'es tourné vers des expériences qui sont de courses de plus en plus extrêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette envie? Est-ce que ça a été finalement une évolution assez naturelle ou est-ce que c'est ce goût de l'aventure et de faire des choses et vivre des expériences assez fortes? Est-ce que c'était ancré en toi depuis toujours?
Toujours aimé les défis. C'est que au départ c'était plus, je dirais, intellectuel. Ça a été dans mes études. J'ai voulu les pousser à fond en faisant plusieurs diplômes en même temps, en apprenant des langues que je connaissais pas forcément. Je faisais un diplôme, je changeais de langue. Donc voilà, je faisais des études scientifiques avec de l'anglais et de l'espagnol. Et en même temps, je faisais de la science éco avec de l'allemand et du russe. Donc voilà, j'ai toujours été, je dirais, dans l'excès des choses ou dans la découverte des choses, quoi. Déjà tout petit, quand j'avais du mal à dormir, donc je lisais tous les Zola, tous les Balzac, même le Guinness des records, le guide des inventions. En fait, je cherchais à m'instruire pour pouvoir essayer de dormir un petit peu, quoi, parce que sinon j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc, j'ai besoin d'activité ou cérébrale ou physique. Et donc, voilà. Donc, j'ai besoin d'une grosse dépense.
Et d'être stimulé par des objectifs, par exemple.
Dans les défis, plus physiques, quoi. Jusqu'au marathon et en Corée du Nord. Ça a été à la fois le côté culturel, politique et sportif.
Hormis ce marathon de Pyongyang, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans l'épisode, tu as vécu donc bon nombre de courses très atypiques tout au fil de ta vie. Je te propose un petit question-réponse express. Donc voilà, sur ces courses qui ont marqué ta vie, il faut que tu me répondes vraiment de façon très spontanée et que tu me dises en 3-4 phrases maximum pourquoi tu as apporté cette réponse. Allez, est-ce que tu pourrais me dire quelle a été pour toi la course la plus difficile jusqu'ici?
La diagonale des fous. La diagonale des fous. Ben alors si je reprends l'historique, donc j'avais fait l'Ironman sans savoir nager, jamais posé de vélo. Donc voilà, ouais, je suis passé de zéro. J'ai nagé les 3 km 800 à la brasse. Hein, et bon, j'ai passé l'Ironman sans avoir jamais fait un triathlon. Donc je me suis dit, tiens, tu vas passer du marathon à l'ultra-trail. Pareil, Et donc, je me suis pointé à la Diagonale des Fous avec un genou en moins. Donc, voilà, je suis allé deux fois m'entraîner en montagne. Et ouais, j'ai souffert. C'est passé, mais bon, là, j'ai vraiment souffert, quoi. Voilà, ça fait partie des choses, voilà, où j'ai appris qu'il fallait s'entraîner pour faire des choses, quoi.
Est-ce que tu peux me parler de ta course la plus surprenante ?
La plus surprenante, ben là, c'est pour le coup, c'est Pyongyang, c'est la Corée du Nord, ça. Ah, celle-là, c'est la.
Ça tombe bien.
Ouais, c'est la plus surprenante. Ça, je pense que celle-là, c'est pour le coup, je valide.
La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance ?
La plus grosse défaillance, ça a été sur le 90 km du Mont Blanc. Et en même temps, sur le Red Bull Element, sur le relais, là. La montée de la tournette. Hein. J'ai eu un coup de moins bière, mais terrible, quoi.
Là, tu s'expliquais comment ? C'était quoi, là ? T'as pu identifier la cause ?
Ah ben oui, c'est que levé, je mange pas et je bois pas. Le problème, c'est que voilà, alors pour le coup, si on part du Mont Blanc, j'y suis allé sans entraînement, donc je me suis dit bon, 90 km, ça va passer, quoi. Et ben, déjà au bout de kilomètres, ça commence à être terrible. Donc la journée, elle a été très très longue. Et sur le Red Bull Element, pareil. Levé à 4h du matin, je suis parti à 10h, donc j'avais mangé à 4h, mais bon, il y a eu quand même presque 2h de course, et ben, j'avais rien à manger, rien à boire. Hein. Et là, pour le coup, ben, un coup de fringale terrible, quoi. J'étais dans les 10 premiers, et puis bon, les 4 derniers kilomètres, quoi, j'ai dû voir passer une centaine de personnes, comme j'étais scotché sur la pente. Hein.
Et pourquoi tu n'avais rien à manger, à boire ? C'est un choix ou c'est un sujet
d'organisation ? Oui, je suis comme ça, moi. Ouais, ben disons que voilà, c'est dans mon truc. Ouais. J'aime bien être. C'est-à-dire que j'ai tellement fait des courses comme le marathon des sables où j'avais 13 kilos sur le dos que maintenant j'essaye d'être le plus minimaliste possible. Et puis bon, voilà, si je peux éviter d'avoir un sac et compagnie, ouais, j'aime bien courir en toute liberté, quoi.
La course la plus éblouissante que tu aies faite, en tout cas celle qui t'en a mis le plus plein les yeux.
Alors, il y en a deux. Il y en a une, c'est en Australie, ça s'appelle The Track, c'est en 120 km, et après c'est le trail de la muraille de Chine. Je crois que celui-là c'est peut-être la plus belle course que j'ai faite, voilà. Tant sur les résultats que sur ma forme physique et les paysages, c'était hallucinant, quoi. Là il y avait tout, les planètes elles étaient alignées. Donc voilà, ça fait partie des choses. Alors des fois, quand on fait une course comme la Diagonale des Fous, on a tellement souffert, on n'a pas envie de la refaire. Et la muraille de Chine, ben, c'est pareil. C'était tellement bien que j'ai peur d'être déçu si je refaisais, quoi.
Et donc, tu m'as peut-être donné la réponse à ma dernière question. La course que tu n'oublieras jamais ?
La course que j'oublierai jamais, ben, c'est le World Marathon Challenge. C'est la dernière pratiquement que j'ai faite. Et ouais, ça a été une sacrée expérience, ouais, de vivre dans un avion. Il y avait, voilà, on était une trentaine, et ouais, c'était une super expérience parce que voilà, on sortait de l'avion, il fallait vite s'habiller, on prenait un bus, on faisait notre marathon. Hop, on prenait, dès que le dernier était arrivé, on reprenait un bus direction l'aéroport et on repartait sur un autre continent, quoi. C'était complètement fou, ça.
Donc l'idée, c'est 7 marathons sur 7 continents.
Ouais.
Et notamment un marathon sur le pôle Nord, c'est ça ?
Antarctique.
Antarctique, d'accord.
Antarctique, ouais. Mais j'ai fait aussi le pôle Nord. Bah oui.
La chance. Philippe, on l'a vu, il y a pas mal de diversité dans les courses auxquelles tu aimes prendre le départ. Est-ce que tu peux nous parler des principaux critères pour choisir ces courses ? Qu'est-ce qui va emporter la décision et te donner envie de l'ajouter à ton calendrier de course ?
Le premier, c'est le pays. C'est le pays. Voilà, il y a des pays que j'avais envie de découvrir. Donc, ben, quand il y a une course, ben, c'est l'opportunité. Donc voilà, j'avais envie d'aller en Chine. Et alors, j'aurais pu faire le marathon de Pékin ou un truc comme ça, mais voilà, j'avais envie d'aller sur cette muraille de Chine parce que bon, c'est magique. L'Australie, j'ai pris une course assez en 120 km pour finir à Eyre Rock à Uluru, à le gros rocher. Et l'autre, enfin, j'ai pris l'éco-trail de Paris pour pouvoir finir au premier étage de la Tour Eiffel. Ouais, j'essaye de donc des fois c'est ouais, ça fait partie des choses où voilà, c'est plus d'aller dans un endroit et de courir. Voilà, le Costa Rica, j'avais envie de connaître la jungle pour le coup. J'avais envie de courir dans la jungle. Et ben après, au pôle Nord, je voulais me tester sur la neige et la glace et sur le froid extrême aussi. Donc voilà, des fois, c'est pas forcément. Moi, je réfléchis à des trucs. Hein, voilà. Il y a des pays comme les Philippines où j'ai pas trouvé de course. Voilà, j'ai envie d'aller courir dans des cascades ou un truc comme ça. J'avais envie de courir dans l'Everest. J'ai trouvé l'Everest Trail Race. Voilà, j'essaie d'associer des courses avec des choses que j'ai envie de voir visuellement ou de courir dans des endroits comme ça. C'est dans ma vision de la vie et du coureur. Ouais, j'ai envie de courir dans des endroits exceptionnels.
Donc le jour où il y a un trail sur la Lune, on peut compter sur toi, tu seras en première ligne.
Eh bien, alors ça, c'est ce que tout le monde me prédit. Oui, non, c'est le seul endroit où je suis pas allé. Mais ouais, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas dans mes
Juste pour
critères,
le
mais bon.
voyage déjà, pour l'idée d'y aller.
Oui. Non, mais après, ça fait pas partie de. Enfin, il y a tellement de choses encore à faire ici que bon, voilà, j'ai pas tout exploité. Il m'en reste. Puis bon, il me reste ouais, des grosses courses aussi à faire, hein.
Philippe, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves aujourd'hui dans la course à pied? Qu'est-ce que tu viens y chercher?
Ben, je vais y chercher. Bon, déjà un équilibre. Hein. Ça c'est, voilà. Moi, un boulot à responsabilité, voilà, qui me permet aussi, voilà, d'avancer dans la vie. J'ai une vie familiale et puis voilà, j'ai besoin d'avoir ce petit plus qui vient par mes courses. Voilà, je trouve que ça me fait un bon équilibre. C'est à la fois un défouloir, un accomplissement d'autres choses, de rêves, de liberté. Voilà, je suis enfermé 50 heures par semaine dans un magasin où je vois pas forcément la lumière. Et le fait de courir dans les grands espaces, ben ouais, ça fait un équilibre. Hein. Enfin, c'est tout simple. Hein.
Petite pause autodiagnostique de l'épisode, Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts et puis les points d'amélioration que tu aurais pu identifier jusqu'à maintenant?
Ah ben mon point fort, c'est mon mental, hein. Ça c'est mon moteur. Après, si j'avais démarré plus tôt, voilà, j'aurais eu le physique qui aurait été plus intéressant. Mais bon, après, moi, j'ai pas spécialement de regrets. C'est que bon, voilà, si j'avais démarré plus tôt, bon après, bon, est-ce que la performance c'est si important que ça? Voilà, moi c'est, voilà, je rencontre des gens fantastiques, des champions comme des non-champions. J'ai rencontré des personnes très très riches qui venait aussi sur ces courses-là et voilà, qui le disait pas forcément. Et bon, c'est voilà, j'ai rencontré des gens avec qui on peut discuter de tout et de rien. Ouais, c'est non, c'est de belles aventures humaines et physiques. Et, voilà, c'est ça. Voilà, pas de regrets
C'est
particuliers.
l'essentiel.
Oui, je pense. Voilà, c'est la convivialité, c'est ouais, le partage. Ouais, et puis bon. Le petit cocorico aussi, voilà, parce qu'on a tellement de clichés avec les Français, donc j'essaie de montrer que bon, on n'est pas forcément râleur, qu'on peut être fair-play, qu'on peut être aussi intéressant comme en tant que personne. Hein.
Merci beaucoup pour cette présentation. Pour continuer à en savoir encore un peu plus sur toi, je te propose de passer à notre rubrique de la basket qui ne sera pas nord-coréenne mais bel et bien chinoise aujourd'hui, même si la tentation est grande. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il et pourquoi?
Ben en fait, ça serait plutôt Sherlock Holmes.
D'accord.
Ouais,
Il a
ça me
marqué ton
représente.
enfance.
Non, c'est que en fait, j'adore les énigmes. J'adore, disons que dans mes défis, j'essaye d'aller chercher voilà, toute une logique. Ouais, j'ai un enseignement scientifique, hein, donc j'essaie de tout rapporter aux maths, d'être observateur. Voilà, disons que sur mes courses, le moindre paramètre peut des fois me coûter la vie. Donc j'essaye de tout rendre un peu scientifique, logique, et donc ouais, j'aime bien le côté Sherlock Holmes, ça doit être ce côté observateur, d'anticiper, voilà, j'aime bien ce personnage.
Est-ce que tu as un docteur Watson à côté de toi?
Eh bien, j'en ai plein de docteur Watson maintenant. C'est ça qui est bien, c'est que avant j'étais vraiment tout seul dans mes trucs, et en fait les gens, ben justement, avec des interviews comme ça, avec des passages dans les magazines, en fait les gens, ils se rendent compte que voilà, c'est chouette ce que je fais, ce que je raconte, voilà, que je me prends pas la tête, et que voilà, j'essaye de rendre accessible aussi des choses qui peuvent paraître compliquées. Quand j'ai fait le Spartathlon 250 km, hein, quand je suis revenu au magasin, ben il y a les filles qui me disaient, maintenant on est foutu, on est obligé d'essayer de faire au moins 5 km. Donc ça déclenche des envies aussi, quoi. Donc c'est un peu le but aussi.
Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel choisirais-tu?
Un kangourou. Un kangourou parce que
Un
j'adore
souvenir de ta
sauter.
course en Australie?
Aussi, ouais, ben, en fait j'étais parti aussi en Australie pour voir les kangourous. Je trouve que c'est. Alors j'ai des grands pieds, donc bon, et puis bon, voilà, j'ai fait partie de la génération de Jordan aussi. Donc voilà, donc si on voit mes photos sur Instagram, je fais mes petits sauts et voilà, j'aime bien cet animal qui est rapide, qui se laisse pas faire parce que bon, il a du caractère aussi et quand voilà, il est capable d'aller castagner aussi. Donc voilà,
Ça te ressemble bien.
ouais, j'aime bien le kangourou. C'est pas forcément, voilà, il se fait respecter, quoi. C'est voilà, c'est et puis bon, voilà, il porte son animal aussi avec la poche. Donc je trouve que ouais, il y a ce côté entre guillemets humain, quoi, de l'animal, voilà, qui protège aussi ses enfants.
Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulièrement forte pour toi?
Alors, bon, forcément, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais celui qui m'a peut-être le plus influencé, c'est Bernard Hinault. C'était le boss, et voilà, lui aussi, il se faisait respecter, et il avait peut-être des fois 6-7 minutes d'avance au classement général, mais bon, il était tout le temps à l'attaque, quoi. Je dirais qu'il y avait ce côté panache que j'aime bien, moi. Je dirais que voilà, c'est quand on veut respecter les autres et qu'on veut être le meilleur, il faut être le meilleur tout le temps, quoi. Et voilà, moi j'aimais bien son côté, bon, ça le caractère, hein, mais beau champion, voilà, il lâchait rien, et puis voilà, c'était un combattant de tous les jours. Il était bon en montagne, il était bon au sprint. Voilà, je trouve que c'était un champion complet dans sa catégorie.
Merci Philippe de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, le marathon de Pyongyang. Pour en planter brièvement le décor, le marathon de Pyongyang est une course créée en 1981 et ouverte aux femmes depuis 1984. Cette course, elle se déroule chaque année, au mois d'avril, dans les rues de la capitale de la Corée du Nord. L'hospitalité nord-coréenne à l'égard des marathoniens est récente et correspond à une volonté du régime de renvoyer une image plus positive du pays. La course n'est ouverte aux coureurs étrangers que depuis 2014. En tout cas aux coureurs amateurs, et représente l'une des rares possibilités de voir en vrai à quoi ressemble cet État communiste si secret. Le voyage sur place n'est possible que par l'intermédiaire d'agents spécialisés et rigoureusement encadrés par l'État nord-coréen. Ce marathon, c'est l'événement qui draine chaque année le plus de touristes occidentaux dans ce qui est très probablement le pays le plus cadenassé au monde, avec habituellement seulement 5 000 visiteurs étrangers par an, si l'on exclut les touristes chinois. La course prend son départ et se termine au Kim Il-sung Stadium, désolé pour la prononciation, qui compte environ 50 000 places assises. Mon coréen est pas au top, surtout mon nord-coréen. Les élites et amateurs prennent le départ au même endroit et à la même heure, et les trois formats de course proposés, le 10 km, le semi et le marathon, démarrent simultanément. Le parcours consiste essentiellement en une boucle autour de Pyongyang, jonchée de portraits et de statues à l'effigie de Kim Il-sung, de son fils Kim Jong-il, ancien leader nord-coréen et père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Le délai maximum pour parcourir les 42 km de ce marathon est fixé à 4h30, et si les coureurs veulent terminer la course dans l'imposant stade, il conviendra même de le terminer en moins de 4h. Pour tous ses concurrents, ce marathon est un grand saut dans l'inconnu, un saut ultra contrôlé et encadré puisque les services locaux de sécurité ne les lâchent pas d'une semelle pendant la durée de leur séjour. Au marathon de Pyongyang, l'aventure ne commence d'ailleurs pas sur la ligne de départ, mais dès l'entrée dans le pays, voire même avant, ce que tu ne vas pas manquer de nous raconter, Philippe. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, un moment redoutable, j'espère que tu es prêt, c'est la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On va aujourd'hui se faire un petit vrai-faux sur la Corée du Nord et son emblématique leader Kim Jong-un. T'es partant ?
Oui.
T'as révisé ?
Non.
C'est comme ça que c'est bon. Allez, première question de ce vrai-faux. En Corée du Nord, en ce jour où nous enregistrons l'épisode, nous ne sommes pas en 2021, mais en l'an 110. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
C'est vrai.
Bravo. Effectivement, le calendrier de Corée du Nord n'est pas établi depuis l'année de naissance supposée de Jésus-Christ. Le calendrier juge, c'est son nom, a été promulgué en Corée du Nord en juillet 1997 et est entré en application 2 mois plus tard. Il fait débuter le compte des années en 1912, année de naissance du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, mort 3 ans plus tôt et qui institua ainsi l'ère des Kim.
C'est ça.
Eh bien, tu savais. Tu avais quand même lu ton guide avant de prendre l'avion pour aller en Corée du Nord.
Non, mais c'est que... Bah, à un moment, voilà, j'ai essayé de poser des questions intéressantes. Hein. Et voilà, donc pour montrer aussi que j'étais venu pour apprendre des choses.
Hein. Toi aussi, tu posais des questions qui piquent aux autorités.
Ah oui. Non, mais voilà, moi, je posais des questions. Voilà, j'essayais j'étais venu pour ça aussi, hein, pour connaître un peu leur culture. Hein.
Ils ont même développé, d'ailleurs, je pense que tu le sais aussi, mais leur propre fuseau horaire. C'est pas une des questions de mon vrai-faux, mais ils ont leur propre fuseau horaire. Ils voulaient s'affranchir du système existant. Donc, ils ont créé leur propre fuseau.
Ah, ça, je ne sais pas.
Bon, 1 sur 1, franchement, ça part idéalement.
Oui, ça peut
Deuxième durer. Question de... Deuxième question de ce vrai-faux. L'oncle de Kim Jong-un aurait été donné à manger à une meute de 120 chiens affamés depuis 3 jours suite à sa condamnation pour avoir, selon le régime, fomenté un coup d'État.
Alors,
c'est
je crois
bluff
que c'est
ou c'est pas bluff ça.
Je crois que c'est vrai, mais j'ai un doute sur les chiens. Je sais pas si c'est pas des cochons.
Alors, écoute, a priori, alors c'est toujours un peu incertain, mais globalement, on pense qu'il est bien mort pour trahison, l'oncle de Kim Jong-un. Mais c'est vraisemblablement en raison d'une exécution par balle et non d'un meurtre digne de Game of Thrones. C'est ce qu'a révélé en tout cas le Washington Post. Cette rumeur, elle serait a priori issue de la blague d'un humoriste qui aurait été lancée sur Weibo, qui est le Twitter chinois. Voilà, on a connu une blague de meilleur goût, c'est le cas de le dire, mais a priori c'est du bluff.
D'accord.
Je pense qu'on s'est tous dit que c'était possible quand même. 1 sur 2, moi je pense que tu vas finir en beauté et tu vas réussir à trouver la deuxième bonne réponse. Troisième et dernière question donc de ce vrai-faux. Kim Jong-il est un grand fan de sport.
Ouais, de basket.
Il était. Ouais, comme toi, ça vous fait un point commun.
C'est ça.
C'est le seul.
Non mais c'est qu'en plus j'ai rigolé quoi. Quand on m'a dit ça, qu'il était super basketteur et tout ça, ça m'a fait rire. Mais pourquoi ? Parce que bon, alors, il appelle le chef suprême ou le général suprême, mais je dis, mais il a pas le physique pour quoi dire. Il peut aimer le basket, mais en tant que pratiquant, je dis, il va pas jouer en NBA quoi. Donc voilà, je sais que ça m'a fait beaucoup rire quand la guide m'a dit ça quoi.
Ouais, ils avaient fait venir Dennis Rodman, l'un des partenaires de
Michael
Jordan pour un match.
Après, on pouvait aimer le basket, mais de là en faire un super champion, parce que c'est ouais, me le vendait un peu comme ça, quoi.
Ouais. Et ben moi, c'est un peu le sens de ma question. C'est un grand fan de sport à 16 heures, mais c'est aussi le meilleur golfeur du monde. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ?
Ouais, c'est faux.
Mais non, c'est vrai. En tout cas, selon les autorités coréennes. En 2004, à l'occasion d'une compétition de golf qui opposait des joueurs du Sud et du Nord, les médias de Pyongyang ont révélé que leur cher leader était sans doute le meilleur joueur que la Terre ait porté. Ils n'exagèrent pas du tout sur les termes. Lors de ses premiers pas sur un parcours de golf, figure-toi que Kim Jong-il aurait réussi plusieurs trous en 1. Et lors d'une autre partie, il a réussi 5 trous en 1, terminant à 38 en dessous du par. Donc, je ne sais pas si tu joues un petit peu au golf, mais jouer moins 38 au golf... C'est quelque chose qui est, on peut le dire, impossible, mais visiblement, ça n'allait pas pour Kim Jong-il. Donc, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était vraiment le meilleur golfeur du monde. Tu vois, je pense que Tiger Woods, c'est un apprenti golfeur.
Mais voilà, c'est le meilleur basketteur du monde, donc j'aurais dû
t'aurais dû
foncer dans le golf aussi. Quoi.
Heureusement qu'il n'a pas fait le marathon en même temps que toi, parce qu'il aurait sûrement gagné la course, à mon avis.
Oui, bon, après les coréens, ils font des chronos stratosphériques, mais bon, la légende dit qu'ils ne font pas 42 km, donc voilà, ils ont un petit parcours à eux où ils coupent, quoi. Oui.
Bon, Philippe, tu as fait 1 sur 3, mais en vrai, c'est quand même 2 sur 3. C'en est fini de notre question qui pique, et au vu de tes résultats, j'ai quand même envie de te décorer d'une médaille du mérite. Tu t'en es quand même bien sorti, c'était pas très simple. On va parler maintenant, un jeu de mots s'est glissé discrètement dans la phrase précédente. On va passer à ta course épique qui a donc pris place en Corée du Nord, on l'a compris, un matin d'avril 2018. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présenté à toi l'opportunité de participer à l'édition de ce marathon de Pyongyang ? Est-ce que c'est toi qui as été sollicité cette opportunité ? Enfin voilà, comment est-ce que ce projet t'est venu ? Est-ce que c'est une idée que tu avais en tête depuis un petit moment ?
Alors, du tout. C'est que je crois que je suis tombé par hasard sur une pub ou un truc comme ça. Et je me demandais si c'était une blague. Hein. Parce que des fois, je tape des trucs sur Google, marathon de Tchernobyl, marathon de, voilà, je tape des trucs improbables. Et je crois que j'avais dû taper marathon Corée du Nord, un truc comme ça. Et j'ai vu que ça existait, quoi. Donc, et ça tombait, en fait, j'avais fait au mois de novembre, j'avais fait l'Everest Trail. Au mois de février, j'avais fait la course dans la jungle au Costa Rica. Et ben, avril, c'est tombé, donc j'ai dû m'inscrire. Mi-mars ou un truc comme ça, quoi. Et c'était vraiment pas prévu. C'est pour ça que j'étais pas du tout entraîné pour faire un marathon. Surtout que bon, j'étais revenu très très fatigué et très usé de la jungle, parce que je m'attendais pas à une course aussi dure aussi. Donc ouais, j'y suis parti par défi. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et j'ai pas été déçu.
Est-ce que tu peux nous parler des motivations pour t'inscrire à une telle course ? Parce qu'il y a la dimension sportive, mais évidemment, de façon sous-jacente, on imagine bien, et tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, c'est une aventure que tu cherches à vivre derrière ça. Qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que tu as en tête de vivre en t'inscrivant à un tel marathon ?
Ah, mais là, c'est... Ben, en fait, c'est... Moi, je suis assez curieux et j'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, d'aller courir à Cuba. Et donc, c'était un peu pareil. J'avais vu la propagande et tout, c'était énorme. Et je suis allé courir dans des endroits où... j'ai réussi en disant, je vais courir, je suis français et tout ça. Donc, j'ai passé des barrières, je suis rentré dans des trucs interdits à Cuba. Et tous les jours, en fait, j'avais sympathisé avec les soldats. Ils me voyaient arriver de loin, ils m'ouvraient la barrière. Et voilà, j'allais dans des marinas et tout ça qui étaient totalement interdites aux étrangers. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, voilà, je l'ai fait à Cuba. Et voilà, j'aime bien aller m'immiscer dans les pays, aller voir un peu quoi. Voilà, j'essaye de... Voilà, quand je vais, le jour où je suis allé à New York, une demi-heure après, j'étais New-Yorkais, quoi. Donc voilà, j'essaye de m'adapter de suite à l'endroit où je suis. Et là, bon, je me suis dit, tiens, tu vas aller en Corée du Nord. Voilà, c'était bon, tout le monde m'a pris pour un fou, pour un truc. Voilà, c'est. Mais puis bon, une fois, mais c'était le marathon, c'était vraiment accessoire, quoi. C'était, ouais, je voulais voir comment ça se passait, si c'était
la Libye,
si c'était vrai que bon, c'était chaud, quoi.
Est-ce que tu avais en tête à ce moment-là le cadre et les prérequis d'une telle course, ou est-ce que c'était un choix, enfin une décision assez impulsive ? Est-ce que après, à contre-coup, en mettant le nez un peu plus en détail dans les contraintes administratives, est-ce que ça impliquait, enfin la situation du pays, est-ce que ça a été une source quelconque de préoccupation pour toi,
non,
ou d'inquiétude ?
Non, c'est qu'à un moment, quand j'ai décidé quelque chose, je fonce, quoi. C'est voilà. Mon premier choix compte, donc je me suis dit, tiens, tu vas là-bas, et puis voilà, donc après, voilà, c'est... la machine est en route, et donc voilà, c'est après je suis parti. Hein.
Rien ne peut t'arrêter.
Non, voilà, c'est, une fois que j'ai décidé, voilà, que, non, après, c'est au fur et à mesure que je découvre les choses.
Donc t'as pas été refroidi quand t'as appris qu'il y avait un Américain de 22 ans qui avait malencontreusement disparu, enfin en tout cas qui était décédé.
Je l'ai appris. C'était déjà trop tard. Hein. J'étais déjà en Chine quand je l'ai appris, donc donc je peux plus reculer là.
C'était un coureur américain, c'est ça qui avait participé à l'édition 2017 et à qui on a reproché d'avoir volé une affiche de propagande, c'est ça?
On nous avait montré les images hein, du procès et tout, comme, voilà, pour nous foutre un peu aussi la trouille. Hein. Mais donc bon, il était. Alors, j'ai la version des coréens, hein, qui, donc il était alcoolisé, donc il avait déchiré une affiche du leader suprême. Donc il a été condamné, je crois que c'était à perpétuité ou un truc comme ça.
Je crois que c'est 15 ans de travaux forcés, ce qui est déjà pas mal.
Ouais, ou un truc comme ça, c'était colossal quoi. Et donc bon, il y a eu une négociation avec les États-Unis. Et en fait, il était très 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 diminué et malade. Et en fait, quand il est mort quoi, donc quand ils ont fait le transfert, alors je sais pas s'il était mort avant ou juste après, mais bon voilà, il est jamais revenu grosso modo de la Corée quoi, donc ça, ouais, ça calme, mais ça calme, on se dit voilà, oh il va falloir, ça va être chaud patate là,
mais quand même j'y vais.
Ah oui, mais j'y étais, je partais le lendemain, donc ouais, j'avais pas reculé.
En termes de préparation, tu nous l'as dit, donc tu sortais d'une course assez éprouvante et tu as pris la décision tardivement. Tu es quand même dans des bonnes dispositions physiques et psychologiques malgré tout. Si on parle vraiment de la dimension sportive, tu te sens plutôt dans les bonnes
physiquement,
conditions.
Physiquement, j'avais pas fait de préparation. Non, j'y suis allé. J'y suis allé. Bon, suite à 42 km à faire, bon, ça a passé. Mais bon, voilà, c'était... Non, j'étais pas... Bon, je sais que ça allait passer, donc voilà. J'étais plus parti pour 3h45 ou 4h. Voilà, je me suis dit, tu vas le faire. Hein. Et puis voilà, c'était... Non, c'était juste pour partager, voilà, pour entrer et voir un peu comment ce pays était fichu, quoi. Tant politiquement qu'économiquement qu'au niveau de l'architecture. Hein. Ouais, j'avais envie de voir un peu comment c'était fichu.
Ton départ, il s'annonce comme un long chemin de croix, puisque avant même que tu réussisses à embarquer pour Pékin, tu as déjà vécu des épreuves, en quelque sorte, et des moments un peu périlleux, ça promettait déjà.
Ouais, déjà, il y avait des mouvements de grève donc à Air France. Donc au départ de Bordeaux, je crois que j'avais mon vol à 10h, j'étais obligé de prendre un sud de 9h, parce que celui de 10h était annulé, et j'avais mon vol après à 17h pour Pékin. Et donc, j'arrivais jamais déjà à m'enregistrer. Et puis, quand on a pu s'enregistrer, et voilà, c'est le premier truc, c'est que moi, on voulait pas de moi parce que voilà, j'avais pas fait un visa normal, je dirais, pour la Chine. J'ai voulu prendre le plan 48 heures, donc il nécessite rien. Il faut juste dire que voilà, j'avais une nuit d'hôtel. Il fallait justifier d'une nuit d'hôtel, mais il fallait montrer que voilà. J'avais que j'étais juste en transit pour partir donc sur la Corée du Nord quoi, sauf que j'avais pas mes billets d'avion pour la Corée du Nord, donc la personne ne trouvait aucun vol, et j'avais une photocopie, une face de mon semblant de visa quoi, donc bon, ça aurait pu être un faux, c'était pareil quoi, donc la première personne qui enregistre, donc elle m'a mis sur le côté, elle a appelé son chef. Son chef, il a dit, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui était allé en Corée du Nord, donc là ça devient problématique. Donc c'est parti directement à la directrice de l'agence. Et heureusement, moi je suis quelqu'un de bien organisé, donc j'avais gardé tous les mails, toutes les pièces jointes, j'avais tout imprimé, j'avais mon beau dossier. Et bon, elle m'a écouté, elle me dit, ouais, mais ça va pas être possible. J'ai dit, ça va pas être possible. Attends, j'ai montré qu'il allait bien en marathon et tout. Donc là, elle a tout faxé à l'ambassade de Chine. Donc je sais pas, j'ai attendu 3/4 d'heure facilement. J'étais en âge, je transpirais, quoi. Et puis bon, on m'a appelé pour me dire que c'était bon. Donc elle m'a expliqué que bon, j'aurais pu partir en Chine, mais j'aurais été refoulé. par les autorités chinoises et ça coûte extrêmement cher en fait d'expulser quelqu'un quoi. Il aurait fallu qu'on me retrouve en vol et compagnie. Donc là, elle m'a dit c'est bon, voilà. Donc
premier problème réglé.
Ouais, mais bon, quand je suis arrivé en Chine, l'administratif a été très long. Je crois que j'ai passé une heure et demie pour rentrer officiellement dans le pays.
Et ensuite, un jeu de piste qui a commencé pour toi.
Voilà. Alors après c'était, après c'est surnaturel quoi. Quand je dis que j'aime Sherlock Holmes, c'est voilà, c'est donc j'avais des photos, donc il fallait que je me rende en taxi dans un marché. Le taxi pouvait pas m'amener à l'endroit, donc ça j'ai pas trop compris pourquoi. Mais
l'endroit c'était l'agence organisatrice.
Voilà, c'était l'agence où je vais aller chercher mon dossard et le fameux briefing de 2 heures. Hein. Et donc à partir du marché, donc j'avais le marché en photo. Donc après j'avais un magasin de disques en photo, donc c'était sur la gauche, je me rappelle, 50 mètres à gauche. Après il y avait un magasin de fringues, 150 mètres à droite. Et puis après c'était le deuxième bâtiment, donc j'avais la photo du bâtiment et tout ça quoi. Et puis voilà, donc bon. Et puis après, ben le briefing, je transpirais pendant le briefing parce que là il y a tout ce qui était tout ce qui était autorisé, ben c'était très faible. Par contre, tout ce qui était interdit, c'était il fallait tout retenir. Ah, c'était. Mais bon, voilà, on se dit bon alors là, maintenant, ça va être compliqué d'y rentrer. Et quand tu y es, il faut que tu te tais. Alors c'est pas trop mon style, hein. Tu commences à remarquer. Et ouais, je dis ça va être compliqué cette histoire-là. Et ouais, c'était. Ouais, là, on se dit, bon, là, c'est là où j'ai pris toute la dimension de la chose, parce que là, il fallait passer tous les rideaux de sécurité. Et puis voilà, bon, après, une fois qu'on est rentré dans l'avion, c'était assez rigolo, parce que déjà, il y avait les fameux hommes en noir, les observateurs, hein, ils passaient, voilà. Et dans l'avion, on nous passait un film de propagande. Voilà, ça commençait déjà, dès qu'on était dans l'avion, et nous forcer pratiquement à acheter des produits qui ressemblaient à rien, quoi, des cartes postales qui devaient avoir 30 ans, quoi. Les images étaient décolorées, quoi, mais bon, voilà, ça fait partie du folklore.
C'est du charme, ouais. Ouais. Et tu arrives finalement donc à l'aéroport de Pyongyang. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières impressions? Et puis je crois que tu as un comité d'accueil plutôt intimidant.
Alors déjà, quand on sort de l'avion, il y a des militaires avec leurs grosses casquettes, leurs beaux uniformes et tout, qui sont au garde à vous. On se dit, ça y est, on rentre dans, on rentre dans une zone militaire. C'est déjà prenant. Et donc après, je suis passé en premier parce que bon, à un moment, je me suis dit, hop, ils seront peut-être plus indulgents avec le premier, ou ils feront du zèle. Et puis bon, voilà. Et donc j'ai passé les deux premiers niveaux facilement. Donc j'ai récupéré mon bagage et là c'était, je crois qu'il s'appelait Simon, l'Australien qui gère ça. Il me dit, ben là tu peux y aller quoi. Et là je dis quoi, je peux y aller quoi? Mais non, mais ils vont s'occuper de toi, t'as un truc privé, tu vois, ça va être génial,
ça ne m'intéresse pas.
Et je dis non, mais je lui dis ça m'intéresse pas. Je voulais pas y aller. Je dis non, je vais rester avec vous. Je vais rester avec vous. Non, il faut que t'y ailles quoi. Et voilà, et ça m'a tellement perturbé que j'avais pris l'option de garder mon GPS alors que c'était interdit. Et puis bon, je suis passé avec mon portefeuille, mes clés et compagnie, donc au portique sécurité, le truc ou même le guide. Si on avait un truc avec la Corée du Sud ou si on avait un guide Corée du Nord, Corée du Sud, là c'était voilà, il le gardait. Et moi je suis passé, ça sonnait de tous les côtés, donc là je dis ah putain, c'est pas possible. Là j'ai commencé à m'énerver, donc ça les a fait rire. Et puis et puis je suis passé. Et puis là il y avait
un petit comité d'accueil particulier.
Ouais, le comité d'accueil, on aurait dit deux croque-morts, quoi, qui m'attendaient, quoi. Le pardessus noir, tout en noir, le pins de la Corée, le pins du parti. Voilà, donc il y avait l'observateur, l'homme en noir qui parlait un peu anglais. Et j'avais une guide qui parlait français. Voilà, donc je suis sorti dans. C'était un Q7 ou un Q9, je sais plus, Audi, vitre teintée, tout neuf. Je me suis dit, bah, vive le capitalisme, là, quand même. Je me suis dit, putain, ils ont des super voitures. Et puis voilà, donc.
Mais t'arrives à être serein dans ce moment-là? Enfin,
serein. Je me dis, jusque-là, bon, ouais, j'étais pas. Non, je peux pas dire que j'étais. Ouais. Là, c'était le 50-50 où j'appelle un ami, là, parce que là, c'était. Ouais, c'était un peu tendu, là, quand même. Hein. Mais ouais, j'attendais, j'avançais, mais bon, j'étais assez prudent, quoi. Et puis bon, voilà, on a commencé à démarrer, donc il y avait le chauffeur. Donc je me suis dit, trois personnes pour moi, quoi, c'est chaud, quoi. Hein. Puis en plus, à l'intérieur, interdiction de filmer, voilà, éteindre le téléphone. Et voilà, et puis au bout de 5 minutes, et voilà, je commençais à être interrogé. Voilà, est-ce que vous êtes un journaliste ou un champion de marathon, quoi. Et ça a tourné en boucle. Voilà, c'était toutes les.
T'as répondu
minutes,
journaliste, hein. Évidemment.
Oui, bah, on croit toujours que. Non, mais voilà, c'était vraiment prenant. Donc j'avais beau dire que ouais, je travaillais dans un magasin de sport, j'étais ni l'un ni l'autre. Mais bon, là, ça avait du mal à passer. Là où j'ai commencé à être inquiet, c'est quand on m'a dit « Vous deviez visiter quoi ?» Donc là, ça m'a un peu... Pour quelqu'un où on m'a vendu que c'était une visite privée, il ne savait pas ce que je dois faire. Donc là, je me suis dit « Ah, ça pue cette histoire, quoi. » Et là, c'est vrai que j'ai un peu angoissé. Donc bon, comme j'avais regardé ce qu'il y avait un peu d'intéressant, donc voilà, je leur ai vendu que je voulais visiter la Jung Tower. Et donc, on y est parti. Et voilà, donc j'ai eu droit à une guide anglaise. Donc on est monté quand même assez haut dans un vieil ascenseur. Et là, j'ai pu admirer la ville. Voilà, sorte de gros Lego géant, hein, avec des maisons de couleurs, plusieurs gros bâtiments, plusieurs monuments. Et puis voilà, donc et puis après. Et puis après, ils m'ont forcé à aller faire le parcours en voiture. Hein. Alors que j'avais pas du tout envie. Donc c'était inintéressant au possible. 21 km dans un sens, 21 km dans l'autre. Voilà, et puis bon, ben, après, à 17h, là, on m'a obligé à aller manger dans un restaurant nord-coréen.
Avec une spécialité locale qui t'a particulièrement plu ?
Ouais, m'a plu. C'était des légumes, hein, donc bon.
Non, parce que j'imagine que c'est toi, tu avais plutôt envie d'une pasta party.
Ah, mais ça, c'est sûr que des légumes pour préparer un marathon, quoi, et surtout à 5h de l'après-midi, je dois dire que c'était pas forcément prévu, cette histoire. Mais bon, là, ça a été le premier moment où ça a été un peu détendu, où ben, je leur ai un peu raconté mes voyages. Donc là, j'aurais montré mes photos que j'avais sur mon téléphone. Donc là, ils ont vu que ouais, j'étais allé en Australie, que j'étais allé au pôle Nord, que voilà. Et donc après, on a commencé à parler, et quand ils ont vu les photos de la muraille de Chine, donc là, ils ont commencé à me dire que, ouais, pourquoi la muraille de Chine avait été créée, parce que voilà, les Nord-Coréens avaient des super chevaux volants à l'époque. Et donc, ils foutaient la trouille aux Chinois qui avaient monté la muraille de Chine. Et donc, après, on a essayé de parler un peu politique aussi, que, voilà, que Kim Jong-un était parti pour la première fois en Chine. Donc, voilà. Que, ouais, et puis, bon, et à droite, à gauche, il y avait des télés qui montraient, voilà, qui, non pas qui jouent au golf, hein, je suis désolé, mais bon, qui visitaient des fermes et tout. Voilà, que c'était le sauveur du pays, hein.
À ce moment-là, tu es toujours à l'écart du groupe ou vous êtes
Ah oui,
tous,
oui, oui, ah oui, je suis totalement à l'écart du groupe. Et après, ils m'ont ramené donc, dans un hôtel qui est sur une île. Donc, il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. Et là, c'était pour tout le monde pareil. Ouais, il ne fallait pas sortir 100 mètres plus loin que l'hôtel. Voilà, donc, moi, je me suis retrouvé... au 36e étage, donc je devais dormir normalement avec quelqu'un, mais là, j'avais une suite, là, pour le coup, j'étais bien, franchement, en lit spacieux.
Le côté positif de la surprise.
J'avais une super vue sur la ville, non, c'était chouette, quoi.
Est-ce que tu te sentais épié d'une certaine façon? Est-ce que tu étais quand même attentif et précautionneux?
Non,
dans
mais
ce
bon,
que tu faisais, ce que tu
elle m'avait quand même appelé pour me dire que... que voilà, qu'ils étaient partis, qu'ils venaient me chercher le lendemain et tout. Bon, ben, moi après, bon, ben, je peux pas dire que j'étais, voilà, j'étais tout seul dans ma chambre. Bon, ça faisait un peu couillon, quoi. C'était tôt quand même. Et puis bon, ben voilà, ils sont. J'ai retrouvé mes collègues coureurs au petit déjeuner, par contre, le matin, quoi. Et donc là, tout le monde se demandait qui j'étais, quoi. C'est toi qui es dans l'Audi et tout. Ben ouais, ah mon pauvre, quoi. Donc, bon. Donc ouais, je faisais plus pitié qu'autre chose, mais bon, je faisais avec. Et puis bon, les coureurs, ils sont tous partis. Je me suis retrouvé tout seul à l'hôtel jusqu'à que mon Audi préféré est venu me chercher. Et après, il y avait des milliers de personnes qui partaient pour le stade. Enfin, moi, j'aurais demandé où c'est qu'ils allaient. Donc, ils allaient effectivement au stade pour encourager les gens. Et donc, bon, il faisait 0 degré. Donc, moi, j'étais avec ma doudoune au chauffage dans la voiture et les autres, ils étaient en t-shirt dehors. Donc, j'étais encore une fois privilégié. Et donc après, ils ont reçu un coup de téléphone, donc il a fallu que je sorte la voiture, hein, parce que bon, je me suis dit, putain, là, je suis bien quand même dans une strate où le téléphone sonne, et hop, 30 secondes après, il fallait que je sorte. Hein. Et donc, bon, j'étais quand même, donc ma guide me suivait partout, hein, jusqu'à l'entrée dans le stade. Et là, il y a un journaliste suédois qui m'a reconnu. Parce que je cours souvent avec une de leurs championnes, Elisabeth Barnes. Et donc, voilà, il m'a demandé si je pouvais l'interviewer. Et l'interview, elle était en anglais. Et là, elle ne comprenait rien, quoi. Donc, elle a mis un terme au bout d'un moment à l'interview. Elle a voulu que je lui fasse un briefing qui a été très court. Donc là, elle était assez dubitative et un peu énervée pour une fois.
Est-ce que tu peux nous parler de tes premières impressions en arrivant de ce stade donc gigantesque, est-ce que t'as pris une grosse claque?
Ah ben c'est, ouais, là c'est, là on a l'impression qu'on est aux Jeux Olympiques, hein. C'est,
le stade est rempli,
ouais c'est le stade est rempli, ils ont tous leur truc là pour faire du bruit, non c'est ils font la hola, non c'est gigantesque, mais tout autour quand même en haut il y a que des militaires, quoi. Donc voilà, le côté spontané, je suis pas sûr qu'il existe. Donc ça a été, voilà, je pense qu'on oblige les gens aussi à aller et montrer l'euphorie qu'on peut générer. Voilà, je pense qu'on essaie de nous, voilà, c'est
le plus beau côté de la Corée du Nord.
Voilà,
sa jovialité.
Voilà, on essaie de nous faire avaler surtout des couleuvres. Et voilà, donc bon, on était pas du tout dans le cadre qu'ils voulaient. Donc nous, c'était, voilà, les coureurs, on n'a jamais voulu se mettre au pas, à marcher droit. Et donc après, quand il y a l'équipe nord-coréenne qui est arrivée, voilà, c'était carré, c'était beau à voir, hein. Mais voilà, donc nous, on était les touristes, et puis après, il y avait les pros qui arrivaient, les pros de l'armée, quoi. Et puis voilà, après on est parti.
Vous avez fait ensuite un tour d'honneur en présence des officiels, est-ce que c'est un souvenir très particulier?
De toute façon, je comprenais rien à ce qu'ils racontaient, donc il y a un drapeau qui s'est levé, ils étaient tous, voilà, bon, on ne se sentait pas forcément concerné, bon, voilà, on s'est tu, et puis voilà, on a respecté, et puis voilà, après, bon, comme il faisait froid, il me tardait de partir courir, et puis voilà, après, c'est...
Et donc là, le départ, c'est un peu le bazar pour le dire poliment, c'est-à-dire qu'il y a toutes les courses partaient en même temps, il y avait les coureurs nord-coréens et vous, les touristes qui étaient un peu plus désorganisés, donc en fait c'est un départ un peu foutoir, c'est ça?
Ah totalement, c'est là, en plus ils sont partis tous en sprint, donc ça met sur un faux rythme. Ah, ce qui était sympa, c'est qu'ils ont un arc de triomphe copié sur le nôtre, bon, un plus gros. Et donc on passe juste à côté. Moi, c'est le seul c'est le seul monument à peu près que j'ai pu voir. Et puis, mais après, au bout de 2 kilomètres, j'étais tout seul, quoi. J'étais tout seul, personne devant, personne derrière, quoi. Donc,
est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le profil du parcours? Ouais, sur la vue, tu peux pas nous dire. Visiblement, il y a pas grand chose à voir, mais le principe, c'est que c'est une boucle, c'est ça? Enfin,
c'est un aller-retour
sur 21 km.
Ouais. Ah non, mais franchement, on passe dans la ville, il n'y a rien, quoi. C'est mort. y a que des militaires pour éviter qu'on s'échappe, quoi. Mais bon, c'est l'impression que, je sais pas, c'est il y a une bombe atomique qui est tombée, quoi. En fait, tout le monde est dans les tribunes, quoi. Il n'y a personne dans les rues, quoi. D'ailleurs, c'est simple, j'ai pas vu une voiture, quoi. Je crois que j'avais la seule voiture du pays, quoi. J'exagère, mais bon.
Non, mais donc, c'est ça, moi j'avais entendu dire que les coureurs précédents avaient été frappés par le silence qu'il y avait tout au long du parcours. Toi, t'as ressenti exactement ça.
Ah, mais ouais, mais c'est. Voilà, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui. Où il y a eu un virus ou un truc comme ça, tout le monde où est endormi ou un truc comme ça, mais moi c'est. Passé, ouais, après c'était. À un moment au demi-tour, bon, bah, j'ai vu ce qui était devant moi, quoi. Mais c'est tout, quoi. Après. Ouais, c'est là où on se croise, quoi. Sur le demi-tour, on voit les autres concurrents.
Donc on ne peut pas dire que tu t'en es soit mis plein les yeux globalement sur ce tracé.
Ah non, 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 non. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas venu pour ça. Bon, je m'attendais quand même à mieux quand même. Voilà, je pensais voir d'autres choses parce qu'il y a des monuments qui sont quand même assez sympas. Mais non.
Tu avais le droit de faire des photos dans ces moments-là ou c'était aussi quand même le fait qu'il y ait des militaires de tous les 20 à 30 mètres? Est-ce que c'était très contraignant ou est-ce que tu pouvais figer
alors,
des souvenirs?
Si j'avais voulu faire des photos, je pouvais. Parce que j'ai filmé. Alors normalement c'était interdit, mais bon, comme tout le monde l'avait, donc bon, tout le monde a pris le risque. Non, moi j'ai filmé l'enceinte, le bruit. J'ai fait des photos dans l'enceinte parce que c'était vraiment le côté convivial et vraiment le côté sportif, il était là, quoi. Mais après sur le parcours, j'ai rien pris en photo. Hein. C'était des immeubles. Enfin, c'était voilà, c'est. Non, mais là, on est allé faire un demi-tour, je crois qu'il y avait une caserne. Donc voilà, je crois que je sais même pas si la route allait plus loin, on a fait un demi-tour où il avait bloqué. Et puis voilà, non, c'était après c'est voilà, c'est les 400 derniers mètres, voilà, c'est voilà, on est aux Jeux Olympiques, quoi. C'est de nouveau les 50 000 personnes qui t'acclament, quoi. C'est bon, tu es content d'en finir parce que comme il faisait froid. Hein.
C'est grisant là aussi cette arrivée sous
ouais,
les
ouais, ouais. Ouais, non, l'arrivée, bon. Et bon, et là, j'ai eu droit à ma doudoune aussitôt. J'avais pas fait 2 mètres que hop, c'est jeté sur moi pour me donner ma doudoune. Donc voilà, elle était contente. Et là, elle m'a dit, je savais que t'étais un champion de marathon, quoi. Donc voilà, elle était contente.
La reconnaissance.
J'étais pas un journaliste, quoi.
Est-ce que ce moment de course, justement, est-ce que tu as l'impression que c'est ton vrai seul moment de liberté et pas trop contraint de ton séjour? Là, c'est 3h23 de course que tu as passé sur le bitume nord-coréen.
En fait, je ne l'ai pas calculé, ça. Je sais pas. Non, j'étais dans ma course, je réfléchissais. Je faisais plutôt un bilan. Je me disais, bon, comment ça va se finir, cette histoire? j'étais plus... Non, j'étais pas trop focalisé sur la liberté ou un truc comme ça. Non, je me dis, allez, hop, il faut que dépêche-toi de finir, qu'on passe à autre chose. Et là, je pensais à rentrer, quoi, surtout. Quoi.
Et donc, toi, Philippe, t'as un rituel à l'arrivée des courses habituellement avec le drapeau français, mais là, ça n'a pas été exactement possible.
Non, ça faisait partie des choses où. Où il voulait pas quoi. J'ai pu sortir le béret, j'ai pu faire des photos avec le béret, mais elle me l'a fortement déconseillé de sortir mon drapeau bleu, blanc, rouge. Quoi. Et franchement, d'habitude, je fais mon rebelle, mais là, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti. Et bon, et après, je crois que personne l'a sorti. Je crois que c'était trop. Voilà, quand ils disent non, déjà
le joueur,
les téléphones,
mais pas trop.
Ouais, j'ai pas voulu trop jouer quand même, parce que bon, j'étais quand même sous auto-surveillance. J'aurais pas été sous auto-surveillance, parce que j'aurais tenté, je sais pas, mais bon. Mais non. Après, je m'étais motivé pour rester soft. Voilà. Donc, il neigeait un petit peu, donc j'avais un peu de neige sur mon béret, là, avec derrière l'Arc de Triomphe. Mais non, j'ai pas joué avec le drapeau. Je l'avais amené, hein, mais je l'ai pas sorti.
Et donc, tes deux camarades là, qui t'ont accompagné pendant la totalité de ton séjour nord-coréen, ils ont changé d'attitude, c'est ce que tu commences à dire. Ça les a détendus de voir que tu étais là pour, en tout cas, pas pour des mauvaises raisons à leur sens.
Oui, à partir de là, j'ai été le roi du pétrole. Donc là, j'ai eu droit à des visites que les étrangers n'ont pas le droit de faire, hein, notamment les grandes statues que je voulais faire à la veille, il m'avait dit que c'était impossible, et puis bon, voilà, Donc, et puis, c'est moi qui ai décidé aussi à partir de là parce qu'il me dit, on va les manger. Je dis, non, je vais aller me doucher. Non, on va les manger. Je dis, non, on va aller se doucher de suite. Hein. Et donc, ouais, c'est moi qui ai repris un peu le dessus parce que, voilà, j'avais senti avec la guide que, voilà, elle était convaincue que, ouais, maintenant, je savais qu'il m'avait mis dans une case qui leur convenait. Donc, je me sentais un peu plus rebelle, je dirais. Donc, c'est moi, à partir de là, qui imposais un peu des choses, puisqu'ils me demandaient si je voulais aller boire des bières. Donc, voilà, forcément, c'était moi qui étais plus dans la direction des opérations, quoi. Donc, j'ai pu faire des chouettes trucs. Ouais, bon, après, quand je posais des questions... qu'est-ce que c'est ça comme bâtiment? Bon, j'ai senti que c'était ou le ministère des Armées ou un truc comme ça. Il ne fallait pas que je fasse de photos. Voilà,
pas de non, deuxième après... question.
Ah. Non, après, ouais, j'ai essayé de... Je titillais, après je posais plein de questions. Mais qui dérangeaient.
Et l'ironie du sort, c'est que finalement, t'as été sous les projecteurs, mais ils se sont trompés de candidat, en fait. Finalement, il y avait un autre journaliste qui était sous couverture, mais qui n'était pas toi cette année.
Ouais. Oui, totalement.
C'est t'as que, fait
ouais,
diversion c'est... à ton insu.
Oui, bah c'est peut-être que ouais, ils ont peut-être su qu'il y avait un journaliste qui tentait de se faufiler ou un truc comme ça, mais ouais, ça a été la grosse. Bah, c'est ce que j'ai appris après, moi. Hein, c'est 2 ou 3 mois après que j'ai appris ça, hein, parce que quand je crois que c'est quelqu'un de l'Express ou un truc comme ça qui m'avait appelé pour me dire ben moi j'étais en couverture en fait, voilà, c'est toi qui as un peu morflé pour moi quoi. Ouais, il s'est fait passer pour un prof de français quoi.
Mais toi t'as eu l'Audi et t'as été bien au chaud avant le départ de la course, c'est aussi
oui belle, après globalement ça a été plus les 5-6 premières heures qui ont été difficiles, mais c'était surtout les interrogatoires là. C'était, je dis putain, il faut que je recommence. Et c'était ça qui était terrible. Ouais, ça fait partie des. Ouais, ça je le. Enfin, voilà, j'étais obligé à chaque fois de répéter. Et je me suis dit, attends là, t'as intérêt à sortir tout le temps la même version quoi, et pas lâcher quoi. Donc là, je me motivais, là, je me coachais mentalement pour me dire, dis pas autre chose que voilà, reste toujours là, sur la même truc. Donc, ils posent les mêmes questions, donnent les mêmes réponses, quoi. Là, je me conditionnais.
Est-ce que ce marathon-là, a posteriori, et quand tu y repenses aujourd'hui, est-ce qu'il a été à la hauteur de tes attentes et conforme à l'idée que tu t'en faisais?
Disons que je suis content d'être rentré et sorti, quoi, surtout. Non, j'ai vécu une expérience. Voilà, j'aurais été peut-être avec le groupe ou un truc comme ça. Ça aurait été différent, ça aurait été peut-être plus festif ou un truc comme ça. Mais là, bon, ouais, c'est ce côté incroyable, quoi. Je me suis retrouvé dans un truc que je maîtrisais pas trop à un moment, et voilà, j'ai subi, voilà, et j'ai réussi à m'en sortir, je dirais sportivement, quoi, parce que bon, voilà, c'est en faisant un chrono pas trop minable, en étant bien classé, bon, voilà, j'ai pu me sortir de ce traquenard, quoi.
Est-ce qu'il y a une image que tu retiens aujourd'hui, plus particulièrement de cette expérience à Pyongyang?
Ah ben oui, le selfie là, avec les deux statues, parce que là, c'est le truc totalement interdit, et la photo qui est faite par un membre du parti, quoi, un observateur, le mec qui fait des parties des services secrets ou un truc comme ça, qui était vraiment droit dans ses bottes, à tout respecter, et puis par en vrille, quoi. Donc c'est ça qui est bon. Et puis en plus, quand il était sous, quoi, il m'a raconté un peu. Voilà,
Est-ce que tu as des nouvelles de lui récemment, ou il a disparu de la carte depuis 3 ans?
Ah, mais je sais pas, parce qu'après, il y a.
Non, j'imagine.
Contact. Après, il y a zéro contact. Hein. Ouais, je les ai perdus, si ça se trouve. Il est parti dans un camp. Hein.
Est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour? On t'a d'ailleurs proposé, ou c'est, oui. t'es passé à autre chose et il faut le faire une fois et ça suffit?
Non, c'est pas assez fait. Voilà, c'est pas. Ouais, je conseille pas spécialement aux gens d'aller là-bas, quoi. Hein, parce que bon, les autres ont rien vu. Hein. Ils ont fait du shopping. Et l'après-midi du marathon, ils sont allés dans un parc aquatique. Hein, donc, voilà, C'est, je pense pas que les gens aient vu, je crois que j'en ai vu plus qu'eux. Mais voilà, c'est, après, il faudrait y rester au moins une semaine ou deux semaines. Et là, peut-être voir autre chose aussi que Pyongyang. Hein, parce qu'il y a des forêts qui ont l'air jolies.
Et ça, c'est possible d'y rester une semaine ou deux, ou ils ouvrent vraiment très temporairement une fenêtre autour du marathon?
Ouais, moi, j'avais pris le créneau le plus court. Hein, parce que, bon, j'étais courageux, mais bon, pas non plus inconscient. Donc, bon, voilà, si j'avais dû durer 3, 4, une semaine comme ça, quand même, bon, je sais pas si j'aurais bien vécu la chose, quoi.
Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé avec nous cette course totalement épique. On va parler un peu d'avenir maintenant et tes futurs projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton agenda de course pour l'année 2022? Est-ce que tu as les idées claires sur ce qui t'attend pour les prochains mois?
Alors mon agenda de course, il est en pleine réflexion. Hein. Donc si tout va bien, je vais partir en Sibérie fin février. Pour faire le Baïkal.
Il va faire chaud en février en Sibérie.
Il fait très chaud, oui, bien sûr. Il fait très chaud, c'est pour ça que j'y vais.
C'est la période probablement la plus chaude. Oui.
Au départ, je suis le spécialiste du chaud, mais à force, je vais devenir le spécialiste du grand froid. Donc, ouais, il y a le Baïkal Ice Marathon. Donc, normalement, on court que sur la glace. Hein, et les 42 km, c'est la traversée du lac. Donc voilà, j'ai envie de me voir en train de courir, voir si ça flippe, en train de craquer la glace. Et puis je pense qu'il fait très très froid, même plus froid qu'au pôle Nord.
Donc beau rendez-vous là à court terme, en théorie.
Voilà, c'est février. Il y en a peut-être une grosse au mois de mars. Voilà, sur la course normalement réputée pour la plus dure au monde. Voilà, un gros trail aux États-Unis avec un monsieur barbu.
Ok, tu n'es pas en train de nous annoncer quelque chose là sur la barque?
Disons que sur les remplaçants, je suis extrêmement bien placé, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, j'ai jamais été aussi prêt.
Ça, c'est un projet qui t'enthousiasme particulièrement, la Barclay? C'est un rêve pour toi?
Un rêve, ça fait... Enfin, voilà, ça fait partie des choses où voilà, j'ai attendu d'être prêt pour postuler. Et en fait, il faut postuler quand t'es pas prêt, quoi. Parce que bon, ça fait quand même 5 ans que je bataille, quoi. Et donc, à un moment, il y a des procédures à suivre. Et voilà, c'est... Bon.
Et voilà, donc, tu peux nous dire maintenant son adresse mail, c'est laz@gmail.com, c'est ça, pour pouvoir s'inscrire?
Voilà, c'est ça. Presque. C'est presque ça. Mais voilà, donc ça fait partie des choses. Ouais, c'est le côté Sherlock Holmes aussi. C'est, voilà, c'est chercher des livres. C'est plus que courir. Donc voilà, c'est. Mais bon, après, je suis pas. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Parce que bon, c'est une course qui demande une grosse préparation mentale plus que physique. Hein. Et voilà, j'ai mon entraînement dans la tête depuis 5 ans, donc après, ouais,
le moment viendra.
C'est tester si c'est bien ou pas, quoi. Et puis après, il y a un marathon sur l'île de Pâques, il y a le Tour des Géants, donc voilà, il y a quelques petites bricoles à travailler, quoi.
On l'a entendu, tu as déjà eu l'occasion de participer à beaucoup de courses, et un peu partout.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un défi ultime, pas forcément là dans les mois à venir, mais une chose que tu aimerais accomplir dans ta vie, qu'il soit une course ou plus un défi sportif ou une aventure à proprement parler, est-ce que tu as ça en tête?
Ouais, c'est la Barclay. Ça, c'est... Enfin, je veux dire que c'est... Pour moi, c'est la course. Le problème, c'est que ça fait 10 ans que je la regarde, cette course. Enfin, je l'avais découvert par hasard et là elle est devenue tellement médiatique que bon, c'était du rustique et maintenant bon voilà, c'est devenu la course. C'est ça qui me chiffonne. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté rustique de cette course, quoi. Là, elle est tellement médiatisée que tout le monde veut la faire et bon, c'est ce qui me chiffonne le plus, c'est que bon, voilà, c'est moi, c'est pas pour ça que voilà, c'est J'ai eu l'occasion de discuter avec Lazarus. Et déjà, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, brillant. Il a une réflexion. Il est aussi diabolique que bon samaritain. Voilà, il a des côtés vraiment humains terribles. Et puis voilà, et ouais, c'est plus être dans son trip. Et voilà, et c'est une course philosophique. Voilà, c'est un long chemin. Voilà, c'est un long apprentissage. Voilà, donc à un moment il faut postuler quand on n'est pas prêt, parce que le temps que voilà, à moins de d'être un super grand champion, et là il dit bon, je le prends,
et
sinon il fait patienter tout le monde, quoi.
Philippe, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, donc une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu as un motto à partager avec nos auditeurs?
Ouais, alors là, ça va être plutôt un motard, mais mais ouais, c'est moi, mon truc, c'est rendre possible l'impossible. C'est vrai, c'est toujours, en fait, c'est à partir de mon Ironman de Nice, hein, voilà, je me suis dit, là, je m'étais tellement foutu en danger et tout, là, j'étais parti de rien. Et voilà, et en nageant 16 fois et en faisant 16 fois du vélo, je suis arrivé à faire une course XXL, quoi. Donc je me suis dit, bon, là, à partir de là, voilà, si moi je peux le faire, les gens peuvent faire quelque chose qui leur semble un rêve ou inatteignable. Donc voilà, mon message, il est là, c'est que voilà, il y a un journaliste de West France qui m'avait interviewé. Et je trouvais ça sympa aussi, voilà, que j'étais quelqu'un d'ordinaire qui faisait des choses extraordinaires. Et voilà, et mon rendre possible impossible, ouais, c'est ça, c'est que bon, on peut être, voilà, un gars de tous les jours, et puis tout d'un coup, on peut se dire, tiens, je suis capable de faire ça, quoi. Et une fois que dans le moteur de la tête, on l'a, et bien derrière, ça va beaucoup plus vite, quoi, c'est la motivation, quoi.
C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Philippe de nous avoir fait vivre avec toi l'envers du décor de ce marathon de Pyongyang, une course qui, on peut le dire, n'a pas d'équivalent. Peut-être pas tant la course en elle-même, on l'aura compris, mais plutôt le contexte plus général dans lequel elle s'inscrit. À t'écouter, j'ai eu le sentiment d'être à la fois dans un trépidant récit de course, mais aussi au cœur d'un passionnant film d'espionnage avec son lot de moments de suspense et de tension. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette course dont on sait si peu de choses. En tout cas, maintenant, on en sait un peu plus. Et puis voilà, merci de ce que tu as pu nous donner à entendre de ce pays qu'on connaît assez peu et qui est encore aujourd'hui très très opaque. Tu m'as presque donné envie d'y aller, l'expérience a l'air quand même mémorable, mais pour être tout à fait franc, je ne suis pas encore certain que mon envie ait pris le dessus sur ma peur, donc voilà, je vais y réfléchir. Merci pour nos échanges Philippe, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs défis, on l'a entendu, il y en a un sacré paquet, donc voilà, je te souhaite de t'accomplir pleinement dans toutes ces belles promesses qui s'offrent à toi et puis que tu passes des grands moments de plénitude et de dépassement de soi.
Ben, merci Guillaume, en tout cas c'était très sympa de partager cet entretien. Voilà, je trouve que voilà, ça fait, il y a une complicité qui se crée, hein, finalement. Tu es parti maintenant des gens avec qui je peux raconter des histoires, tu vois. Bon, on a évoqué ce marathon, plus d'autres choses, et puis voilà, je parler aussi des valeurs que j'essaye de véhiculer au quotidien. Et voilà, merci de m'avoir contacté et de me donner un peu de temps de parole.
Avec grand plaisir, effectivement, c'est ce que tu dis. Moi, je pense que pour rentrer dans l'intimité, en connexion avec l'invité, et puis pour que les auditeurs aussi s'imprègnent au mieux de cette notion de partage, puisqu'elle est assez centrale, tu l'as évoqué tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre le temps. Donc tant mieux, écoute, si tu as passé un bon moment, ça a été le cas pour moi aussi. Et puis voilà, je suis sûr que nos auditeurs aussi se sont beaucoup attachés à ton histoire et puis à cette course qui est une des courses marquantes de ta vie. Je te dis à bientôt, Philippe. Merci pour tout.
Oui, avec grand plaisir.
Salut, merci.
Salut.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.